Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h sur France Culture et toute cette semaine, les programmes de fiction ont été enregistrés en direct et en public au Festival d'Avignon dans le jardin du musée Calvet. Dernier direct ce soir avec Benjamin Walter, Traversée, une pièce de Frédéric Sontag. Le théâtre est donc à l'honneur ce soir, le théâtre vivant d'aujourd'hui. Et je salue Frédéric Sontag qui est avec nous dans la salle. Il est l'auteur d'une quinzaine de pièces publiées à Théâtre Ouvert, Tapuscrit ou aux éditions théâtrales. Il est aussi metteur en scène, mais ce soir, et pour la radio, il a accepté de se dessaisir d'une de ses pièces et d'en confier la mise en onde, mise en scène à Sophie Haute-Picon. Benjamin Walter, une traversée, la version inédite et radiophonique d'une pièce beaucoup plus longue, écrite en 2015 et qui s'intègre dans une trilogie intitulée « La trilogie fantôme ». C'est une pièce qui relève à la fois du roman policier, du documentaire, de l'autofiction. C'est une véritable odyssée européenne, mais évidemment, je ne vais pas vous en dire plus. Cette version radiophonique écrite par Frédéric Sontag dure 2 heures. Vous pourrez en découvrir la première partie ce soir en direct, tandis que les spectateurs du musée Calvet, plongeant peu à peu dans la nuit, pourront faire toute la traversée. Tout de suite, nous retrouvons sur le plateau du musée Calvet à Avignon, en direct, en public, Christophe Montenez de la Comédie Française, Kelly Rivière, Christophe Brault et les élèves comédiens de l'ensemble 26 de l'ERACM, Léa Douzièche, Juliette Evenard, Anna-Maria Haddad-Zavadinac, Thibaut Cutler, Samuel Dio, Robin Redjadj, et la musique originale est signée par Arthur B. Gillette.
Prologue.
Lisbonne, 7...
Prologue.
Lisbonne, 7 juin 2013.
Je suis devant le numéro 23 de la rue Coelho da Rocha à Lisbonne et je me suis arrêté. Et j'attends. Je ne sais pas exactement ce que j'attends. Pourquoi j'attends? J'ai parcouru 7923 km à travers l'Europe et mon périple touche maintenant à sa fin. Je suis devant la porte de l'immeuble où se trouve Benjamin Walter. Devant moi, la sonnette et un bout de papier récent avec, à l'encre bleue, d'une écriture que je reconnais immédiatement, ce nom. B. Walter. Et mon doigt à quelques centimètres de la sonnette et Benjamin Walter à quelques mètres de moi. Après tant de semaines, tant de mois, l'objet de ma quête, enfin, à portée de main. Tout au long de mon périple, j'ai eu de nombreuses occasions de me figurer cet instant. J'ai eu le temps d'en écrire et réécrire une multitude de versions, mais aucune ne ressemblait à celle-là. À la simplicité d'un nom écrit à l'encre bleu pâle, d'une écriture étonnamment scolaire, à côté d'une sonnette en laiton patiné par le temps. Je repense soudain au début d'Amuleto, ce récit de Roberto Bolaño qui commence par ces mots. Ça va être une histoire policière, un récit de série noire et d'effroi, mais ça n'en aura pas l'air. Ça n'en aura pas l'air parce que c'est moi qui raconterai. Je me dis que c'est exactement comme ça que pourrait commencer le récit de mon périple, par ces mêmes paroles. Et ce n'est sans doute pas étonnant si les mots de Roberto Bolaño conviennent si bien à qualifier mon histoire, car Roberto Bolaño est l'un des écrivains préférés de Benjamin Walter. Alors, au numéro 23 de la rue Coelho da Rocha, le numéro 23 se situe exactement en face du numéro 16 où se trouve la Casa Pessoa, et je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas un hasard, je m'apprête à sonner. Alors, mon doigt se dirige lentement vers la sonnette de laiton patinée par le temps et, dans ce mouvement de seulement quelques centimètres, à l'instant où mon périple s'apprête à toucher à sa fin, je revois les événements qui en furent à l'origine. Je revois comment tout a commencé.
Chapitre 1. Comment tout a vraiment commencé.
Benjamin Walter est un écrivain né à Bienne en Suisse en 1979.
Ou à Ivry-sur-Seine en 1976.
Ou à Berlin d'une mère institutrice et d'un père banquier en 1982.
Benjamin Walter a souvent donné des versions différentes de sa biographie.
Il a écrit principalement 2 textes pour le théâtre, D'autres que nous et Par-delà les ruines, quelques courts récits regroupés sous le titre Hurler sans bruit, un roman inachevé et a tenu de 2003 à 2011 un journal qui représente la majeure partie de son œuvre et qui reste encore aujourd'hui inédit.
Benjamin Walter vivait de petits boulots, mais la plupart du temps, il ne travaillait pas. Il profitait de l'hospitalité de ses amis et passait le plus clair de son temps à lire et à écrire.
Lorsqu'on google son nom, puisque c'est ce qu'on fait avec les noms de nos jours, on les google, et peut-être le ferez-vous vous aussi, vous googlerez Benjamin Walter.
À moins que vous ne choisissiez au contraire de vous laisser hanter mystérieusement par le nom de Benjamin Walter, qui sait.
Lorsqu'on google son nom, donc, on tombe évidemment sur l'écrivain et philosophe allemand Walter Benjamin, né à Berlin en 1892 et mort à Porbeau en 1940, dans des circonstances tragiques. Et on met du temps à trouver des informations sur lui, Benjamin Walter. Informations qu'il faut bien dire ne nous apprennent pas grand-chose.
À ceux qui ont eu l'occasion un jour de le rencontrer, il est apparu comme un jeune homme discret, secret, réticent à toute forme d'exposition ou de mise en avant de sa personne, et comme un auteur promis à un brillant avenir.
C'est donc assez inexplicablement qu'en juin 2011, Benjamin Walter a décidé d'arrêter d'écrire.
Et à cette époque, il en informait ses amis de la plus simple façon qui soit.
Ah, au fait, j'ai renoncé à écrire.
Comme s'il venait de dire.
Ah, au fait, j'ai arrêté de fumer.
Et peu de temps après, Benjamin Walter a disparu.
Un jour de juillet 2011, quelques semaines seulement après avoir annoncé qu'il renonçait à écrire, il est parti pour la Finlande.
À ce moment-là, il habitait à Lausanne, chez un couple d'amis qu'il hébergeait assez souvent entre deux destinations.
Il s'est levé un matin du canapé sur lequel il dormait, est entré dans la cuisine et a dit à ses hôtes qui prenaient un café.
Ah, au fait, je vais à Helsinki.
Comme il aurait dit.
Ah, au fait, je vais chercher des croissants.
Et il est parti.
Il a dit qu'il donnerait des nouvelles, il n'en a pas donné.
Il leur a simplement envoyé un SMS quand il est arrivé dans la capitale finlandaise.
Je suis à l'hôtel Anna, à Nankatu 1 00120 Helsinki, chambre 405.
Et il a ajouté:
perdre le visage, franchir ou percer le mur.
La dernière phrase de Benjamin Walter.
Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs de ses amis ont cherché à le joindre.
Aucune réponse.
Depuis le 18 juillet 2011, personne n'a eu de ses nouvelles. Aucun de ses amis, personne ne sait ce qu'il est devenu.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Benjamin Walter deux fois. Je l'ai donc peu connu. Et en même temps, je peux dire que je l'ai bien connu. Car ces deux rencontres furent l'occasion d'intenses discussions, de longues heures passées à parler de sujets très divers, à boire des liquides très divers et à se taire de façon tout aussi diverse.
Entre février et juin 2013, Frédéric est parti à la recherche de Benjamin Walter.
J'ai eu besoin de comprendre pourquoi un auteur que je trouvais si brillant, si doué, un auteur qui semblait si parfaitement incarner la littérature, pourquoi cet auteur avait renoncé à écrire.
Et surtout, pourquoi il avait disparu? Et où? Et ce qu'il était devenu?
Que devient-on quand on renonce à écrire?
Pourquoi renonce-t-on?
Est-ce que renoncer est un renoncement?
Telles étaient les nombreuses questions qui t'obsédaient.
Oui, c'était devenu pour moi une obsession. Le cas de Benjamin Walter, son renoncement, sa disparition.
Mais peut-être aussi pour une autre raison, parce que tu avais une dette envers Benjamin Walter.
Oui, c'est pour ça aussi peut-être que cette disparition m'obsédait. Parce qu'elle signifiait que je ne pourrais jamais avoir l'occasion de m'acquitter de cette dette.
Tu es donc parti à sa recherche.
Mais commençons par le début.
Oui, commençons par là où tout a commencé.
Tout a commencé par un rendez-vous avec un directeur de théâtre.
Dans le bureau d'un directeur de théâtre, quelque part en région parisienne, 11 février 2013.
Bon, alors, je vous écoute. C'est quoi votre projet?
C'est-à-dire que nous en avions déjà parlé, vous vous souvenez? Vous vous étiez engagé à le produire.
Oui, je me souviens très bien. Qu'est-ce que vous croyez? Mais rappelez-moi quand même de quoi il s'agit.
Il s'agit d'une sorte d'hommage à des auteurs qui me tiennent particulièrement à cœur. Villamatas, Zebald, Bolaño. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est...
Attendez, je vous arrête tout de suite, on va s'épargner une perte de temps inutile. Hein. Donnez-moi trois mots.
Trois mots?
Oui, résumez-moi votre projet en trois mots.
Je ne sais pas, c'est pas évident. Je dirais... Non, mais en fait, je crois pas que ce soit possible de résumer en trois mots ce projet. Je crois que c'est plus complexe que ça.
Oui, mais ce serait appréciable que vous essayiez quand même.
Bon, alors, oui, mais je sais pas. Errance, littérature et mémoire.
Là, ça va être difficile. Hein.
Comment ça?
Oui, je suis désolé, mais là, ça va pas rentrer. Hein.
Ça ne va pas rentrer?
Oui, ça va pas rentrer dans les thèmes de la saison.
Mais vous m'aviez pourtant donné votre accord.
Oui, mais là, ça rentre pas. Alors, je peux faire ce que je veux, ça rentre pas. Vous voyez, vous n'avez aucun mot qui correspond. Hein. Écoutez, ce que je peux vous proposer... Le public, mon public, ce qu'il veut, ce qu'il attend, c'est une histoire vraie. Vous voyez, c'est du réel, de l'authenticité. Racontez-lui une histoire vraie, et à ce moment-là, je m'engage à vous produire.
Une histoire vraie.
Oui, une histoire vraie. Une histoire que vous avez vécue. Une expérience réelle.
Mais pardon, mais je vais vous poser une question un peu naïve.
Ouais.
Et c'est quoi pour vous le vrai? Vous définiriez ça comment?
Écoutez, jeune homme, le vrai, c'est ce qui est vrai. Le vrai, c'est ce qui n'est pas faux.
Alors tu te retrouves dehors, devant la porte du bureau du directeur de théâtre, et tu comprends là, tu réalises que ton projet vient d'être annulé. On pourrait dire que tout a commencé là, devant cette porte, avec ce projet qui s'annule et ce nouveau projet qui surgit au même moment. Cette nouvelle proposition, une histoire vraie, une expérience réelle. Mais tout a peut-être vraiment commencé quelques jours plus tard, lors d'une réunion avec ton équipe, une réunion pour exposer ton nouveau projet, un projet de documentaire, un documentaire sur Benjamin Walter.
Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais c'est bien, hein. C'est bien. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée.
Moi, je suis désolée, je comprends pas.
Qu'est-ce que tu comprends pas?
Je comprends pas pourquoi tout à coup tu renonces à ton projet pour cette histoire de documentaire.
Je suis complètement d'accord avec Lisa, t'avais un super projet, on avait commencé à travailler ensemble dessus, et là tu nous annonces que finalement on laisse tomber. Je comprends pas pourquoi.
Mais parce qu'il faut savoir s'adapter. Quelqu'un me propose de produire un autre projet, alors je m'adapte. Vous auriez voulu que je fasse quoi? Que je refuse?
Oui, je crois que ça aurait été bien.
Ça aurait eu de la gueule.
Moi, je pense que le vrai problème, c'est pas tant d'avoir accepté ce nouveau projet. Le vrai problème, c'est la pensée qui se cache derrière cette proposition. C'est la surévaluation de l'authentique, du vécu, du vrai. C'est cette dictature du réel qui envahit tout.
Je suis parfaitement d'accord avec Simon. Je vois pas pourquoi ce qui a été vécu, ce qui a vraiment eu lieu, serait forcément un gage d'intérêt. Enfin, c'est ce qui se cache derrière ce forcément.
C'est ça. On peut faire une œuvre bouleversante sur la mort de sa grand-mère, mais toute œuvre sur la mort de sa grand-mère n'est pas forcément bouleversante.
Carrément.
Sur le seul prétexte que, un, il s'agit de sa grand-mère, et que, deux, elle est morte.
Et pour reprendre les mots de Deleuze, la littérature, c'est pas la petite affaire privée de quelqu'un.
On délire le monde, on délire pas sa petite famille.
Pardon, j'ai pas bien compris, c'est la grand-mère de qui est morte?
Non mais est-ce qu'on pourrait avoir un jour une discussion sérieuse sans que quelqu'un se mette à citer Deleuze pour n'importe quelle raison? Ce serait bien...
Mais oui, et surtout ce serait bien de citer autre chose que Dialogue ou l'ABCDR.
Tu veux dire quoi?
Je veux dire que c'est un peu facile de citer Dialogue ou l'ABCDR. Non, parce que tout le monde a lu Dialogue ou a vu l'ABCDR, donc c'est un peu facile.
Tu veux qu'on cite autre chose?
Ah oui, Clovis, j'aimerais bien.
Ah oui, tu veux qu'on cite autre chose. Tu vas voir. La littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire « je ».
Tu veux encore une autre citation? Écrire n'est pas raconter ses souvenirs, ses voyages, ses amours et ses deuils, ses rêves et ses fantasmes.
Écrire, c'est devenir. Mais ce n'est pas du tout devenir écrivain. C'est devenir autre chose.
Oui, mais ça, justement, c'est dans Dialogue.
Non, mais écoute, Amandine, tu vas pas commencer.
Ok, merci, on va s'arrêter là.
Moi, ce que je voudrais surtout comprendre, c'est comment ça va se passer concrètement. Ça va ressembler à quoi?
Mais je sais pas encore. J'imagine qu'il y aura les témoignages retranscrits des gens que je vais rencontrer, des extraits d'un journal de bord que je tiendrai pendant mon enquête.
Attends. Donc quoi? On va retranscrire l'enquête que tu vas mener, c'est bien ça?
Ah oui, c'est l'idée.
Non, mais vraiment, je comprends pas. Abandonner ton projet sur lequel nous avons tous investi beaucoup de notre temps. Aussitôt qu'on te propose de l'argent pour en monter un autre, sans même essayer une seule seconde de te battre pour ton projet initial, moi je trouve ça particulièrement cynique, excuse-moi.
Hein, moi je suis cynique?
Oui, toi, parfaitement.
Non Lisa, moi je trouve pas ça cynique, je trouve ça réaliste.
Ah bah merci Amandine, bah oui c'est ça, c'est réaliste. Et puis je suis pas cynique, je passe mon temps à critiquer le cynisme ambiant.
Eh bien justement, ce sont les plus cyniques qui sont les premiers à critiquer le cynisme. On en est arrivé à un stade où ce sont les plus opportunistes qui dénoncent les postures à la mode et où ce sont les plus cyniques qui dénoncent le cynisme de l'époque. On en est arrivé à une forme de cynisme à la puissance 2, à ce que j'appelle le cynisme au carré. Et pour reprendre les mots de Baudrillard...
Non mais vous savez où vous pouvez vous les mettre, Baudrillard et Deleuze?
Ah bah bravo, on élève vachement le débat.
Il est parti?
Ah bah oui, là il est parti.
Alors, si on peut même plus parler, c'est...
Alors tu te retrouves dehors, sur le seuil de la porte, dans le froid glacial de ce mois de février 2013, seul, sous la neige. Depuis plusieurs jours, une neige tombe interminablement sur toute l'Europe. Une neige sale, une neige couleur de cendre, une pluie de cendre sans cause apparente. C'est peut-être là que tout commence, en réalité, à ce moment précis. Un soir de février où tu as l'impression que tout abandonne, où tu as l'impression qu'il ne te reste plus rien qu'un seul nom. Alors,
je n'ai plus rien à faire que partir. Partir sur les traces de Benjamin Walter. Mener l'enquête. Disparaître à mon tour. Disparaître dans la disparition de Benjamin Walter.
Des phrases tournent en boucle dans ta tête. Le vrai, c'est ce qui est vrai. Le vrai, c'est ce qui n'est pas faux. Perdre le visage, franchir ou percer le mur. Écrire, c'est devenir, mais ce n'est pas du tout devenir écrivain. C'est devenir autre chose. Trois phrases. Tu vas les emporter avec toi. Alors, ce soir, sur le seuil de cette porte, à cette heure de solitude et d'étrange lucidité, c'est décidé. Tu vas t'en aller écrire une histoire vraie. Tu vas traverser l'Europe sous la neige. Tu vas partir à la recherche de Benjamin Walter.
Chapitre 2. Du nouveau, ce qui a toujours été là.
Hôtel Anna, chambre 405, Helsinki, 18 février 2013.
Non mais qu'est-ce que je fous à Helsinki ? Qu'est-ce que je croyais en fait ? Que j'allais débarquer ici et que j'allais courir d'un indice à l'autre ? Alors qu'il ne suffisait que d'un peu de bon sens pour se rendre compte que ça n'allait pas être aussi simple. Car de deux choses l'une, soit Benjamin Walter est encore dans cet hôtel, et alors mon enquête va très vite toucher à sa fin, soit il n'y est pas. Et il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui n'est jamais resté plus de 2 mois à la même adresse ait choisi de demeurer plus d'un an et demi dans un hôtel finlandais. Et alors, il faut bien regarder la situation en face, je n'ai aucun moyen de remettre la main sur lui.
Et voilà que ton enquête n'est déjà plus le fantasme qu'elle était avant que tu partes, mais la réalité de cette chambre étroite, de ce petit déjeuner médiocre que tu viens d'avaler, de cette neige sale qui recouvre tout, et de l'absence totale de la moindre piste sérieuse pour retrouver Benjamin Walter. La réalité, ta réalité étroite et froide, c'est que tu n'as aucune idée par où commencer.
Un appartement, quelque part à Paris, 20 février 2013.
Alors, il dit quoi ?
Il dit commencer sans moi, c'est l'objet du mail.
Commencer sans moi, ça veut dire quoi ?
Je suppose qu'il veut qu'on commence à répéter sans lui.
Mais répéter quoi ?
Et puis
c'est tout ? Il dit juste commencer sans moi. Ah, j'avais pas vu la pièce jointe.
Wow.
Ah, il nous envoie des extraits de son journal.
Et qu'est-ce qu'il dit dans son journal ?
Alors attends, j'ouvre la pièce jointe. Il dit qu'il fait froid à Helsinki.
Tu m'étonnes.
Il dit autre chose ?
Oui, il dit « Je suis arrivée hier, un peu difficilement à cause de la tempête de neige. Mm-hmm. J'ai passé une première nuit très reposante. Mm-hmm. Je viens de prendre un super petit déjeuner. Ouais. » Il a mis la photo en pièce jointe.
Ouais, ok, super.
Il neige toujours. Je pars mener l'enquête sur la disparition de Benjamin Walter.
Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il l'ait retrouvé.
Ah, attendez, ça c'était le journal d'avant-hier. Ah. Il a écrit aussi quelque chose hier matin. Vendredi 19 février 2013, 8h52, j'ai décidé d'entreprendre une enquête méthodique, une investigation qui ne laisse rien au hasard. J'ai commencé par vérifier le registre de l'hôtel Anna. Benjamin a bien occupé la chambre 405 les 18, 19 et 20 juillet 2011.
Sérieux ?
Au programme des prochains jours, interroger le personnel de l'hôtel et me rendre au commissariat d'Helsinki chargé des disparitions. Je vous tiens au courant. Commencez à répéter. Ça finit comme ça. T'avais raison, Lisa, il veut qu'on commence à répéter.
Mais par quoi il veut qu'on commence ? On pourrait lire la liste de ce qu'il a pris au petit déjeuner ?
Moi, Simon.
Non, mais Simon a raison, ça peut être très intéressant.
Faut savoir ce qu'il veut, hein. Il veut du réel, il veut en avoir.
Non, mais sérieusement.
Oui, sérieusement, par quoi on va pouvoir commencer ?
Hôtel Anna, chambre 405, Helsinki, 21 février 2013.
J'ai interrogé le personnel de l'hôtel, toujours les mêmes réponses. Non, je suis désolé, je ne me souviens plus. Vous savez, nous voyons passer tellement de monde. L'hôtel Anna est un mélange entre un hôtel d'un album de Tintin et un hôtel d'un film de Wim Wenders. Quelque part entre L'étoile mystérieuse et Alice dans les villes. Du coup, j'ai l'impression que mon enquête est elle-même un mélange entre un album de Tintin et un film de Wim Wenders. Un curieux mélange. Benjamin a occupé cette chambre. Il a été là. C'est la seule certitude sur laquelle je peux m'appuyer. Il y a son fantôme dans cette pièce, les fantômes de ses gestes. En demeurant moi aussi dans cette chambre, je ne sais pas ce que je recherche. Me rapprocher le plus possible de Benjamin, sans doute, mais dans quel espoir ? Car j'ai beau repérer des gestes que j'imagine les siens et attendre que découle de cette proximité une compréhension de son projet, une révélation quant à la suite de ses actions, cela ne sert à rien. Les traces s'arrêtent là.
Tu es seul dans cette chambre d'hôtel minuscule. Tu bois des bières finlandaises de la marque Karu, ce qui veut dire ours en finnois, et sur les canettes, l'effigie d'un ours te regarde en effet avec insistance. Tu commences sérieusement à envisager de rentrer à Paris. Tu tombes de sommeil. Avant de t'effondrer sur ton lit, tu jurerais entendre l'ours sur la canette de bière te dire
Yariet pati vatsihan.
Et étonnamment, tu comprends parfaitement cette phrase en finnois, cette phrase qui veut dire « les traces s'arrêtent là ».
Commissariat de police, Helsinki, 22 février 2013.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Alors, voilà, je suis en train de préparer un documentaire à propos de quelqu'un qui est venu ici à Helsinki et qui a disparu.
Bien, bien. Et cette personne, vous pourriez la décrire ?
C'est pas facile. Je crois pas que ce soit possible de décrire Benjamin Walter, vous voyez ? C'était quelqu'un d'un peu particulier.
Oui, mais ce serait appréciable que vous essayiez quand même.
Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'était un jeune homme, le genre de type que vous pouviez ne pas voir pendant 2 ans, et lorsque vous le retrouviez, vous repreniez la conversation exactement au même endroit où vous l'aviez laissé. C'était...
Pardon, mais ce jeune homme, c'était qui pour vous ?
Une connaissance ? Un ami ? Oui, on peut dire que c'est un ami.
Et quand a-t-il disparu ?
Il a disparu il y a environ 1 an et demi, en juillet 2011.
Alors, ce n'était pas vraiment votre ami.
Pardon ?
Vous me dites qu'il a disparu en juillet 2011, il y a donc plus d'un an et demi, et vous ne vous en souciez que maintenant. Alors, c'est que ce n'était pas votre ami.
Je ne sais pas quoi vous dire.
À votre place, je commencerai par réfléchir à ça.
Oui. Oui, vous avez peut-être raison. Je vais y aller. Pardon de vous avoir dérangé. Ah, si, j'ai une dernière chose à vous demander.
Oui.
Est-ce que je peux vous prendre en photo ? C'est pour mon documentaire.
Bah oui, si vous voulez.
Merci. Au revoir. À la sortie du commissariat, je repense à ce que m'a dit l'officier de police. Je dois reconnaître qu'il a raison. Je n'ai commencé à me soucier du sort de Benjamin qu'à partir du moment où il a pu m'être utile. Je n'ai décidé de partir à sa recherche que dès lors que j'ai vu dans cette entreprise la possibilité d'un sujet pour une pièce documentaire. À cette pensée, une profonde tristesse m'envahit. Je marche, sans destination précise, sans but aucun. Je me dis que demain, je vais prendre le premier vol pour Paris. Je n'ai plus rien à faire ici, mon documentaire ne verra pas le jour. Ou alors, je peux peut-être encore sauver ce projet en faisant de mon échec le sujet même de ma pièce. Ce serait l'histoire de mon propre échec, de mon propre renoncement à réaliser un documentaire sur la disparition de Benjamin Walter et son renoncement à écrire. Je continue à me perdre dans les rues d'Helsinki. Je me rappelle comment Benjamin aimait visiter les villes. Il s'aventurait au hasard, en se laissant porter par des détails insignifiants, des éléments minuscules, des attractions banales. Il revendiquait un rapport à la ville qui ne soit pas rentable, pas fonctionnel. Il ne demandait pas à une ville de lui apporter ce qu'il serait venu y chercher. Il s'y aventurait sans attente, se laissant porter par l'expérience qu'il en faisait. Benjamin aimait visiter les villes en s'y perdant. Je marche longtemps. Une forme d'ivresse s'empare de moi, qui me pousse à poursuivre sans fin mon avancée. Et des images de Benjamin surgissent. Images du passé, images de Benjamin marchant avec moi dans d'autres villes, en d'autres temps. Images qui se superposent à cet instant, passé et présent confondus. Puis, au hasard de mon errance, je me vois soudain expulsé du labyrinthe des rues. L'espace s'ouvre devant moi et je me retrouve au bord de la mer Baltique. La mer gelée. Une mer blanche. Devant moi, immense, une page blanche. Et à ce moment-là, une évidence prend forme, une idée surgit. J'ai jusqu'à présent toujours imaginé que Benjamin était venu ici trouver quelque chose. J'ai toujours vu Helsinki comme un but, une destination. Mais là, à cet instant, cette image me fait comprendre qu'il s'agit en réalité d'un commencement. Helsinki n'est pas un point de chute, c'est un point de départ. Benjamin est venu ici pour commencer quelque chose. C'est une évidence. La mer gelée, une page blanche, le début d'une histoire. À ce moment-là, la mer Baltique m'apparaît comme un livre ouvert, un livre immense et blanc, un livre qui resterait à écrire. Et cette image soudain en entraîne une autre, celle d'un autre livre. Dans le tiroir de la table de nuit de la chambre 405, il y avait un livre. J'ai cru qu'il s'agissait d'une Bible. J'ai refermé le tiroir sans y prêter attention. Je revois la table de nuit. Je revois le livre. Ce n'était pas une Bible. Il me faut à tout prix retrouver ce livre.
Tu fonces à l'hôtel Anna. Tu cours dans les rues enneigées d'Helsinki. Tu cours à perdre haleine. Et tu arrives à bout de souffle à la réception. Et là, il y a un problème. Le problème, c'est que tu as dû quitter la chambre 405 le matin même et qu'elle est à présent occupée. Tu expliques au type de la réception que tu as oublié quelque chose dans la chambre. Il te dit qu'il ne peut rien pour toi. Le client est à l'intérieur, il te faut attendre. Pendant qu'il a le dos tourné, tu prends l'ascenseur. Tu montes au quatrième étage. Tu frappes à la porte de la chambre 405. Personne ne répond. Tu frappes encore. Personne ne répond. Tu tentes ta chance. Tu tournes la poignée de la porte. Et la porte s'ouvre. La chambre est vide. Tu hésites à entrer. Puis tu entends la douche derrière la porte fermée de la salle de bain. Mais c'est plus fort que toi. Il faut absolument que tu vérifies, tu entres. Tu te précipites vers la table de nuit et tu ouvres le tiroir. Tu as vu juste. Ce n'est pas une Bible, c'est un autre livre. Un livre en allemand. Un livre de Walter Benjamin. Berliner Kindheit um 1900. Enfance berlinoise. De Walter Benjamin. Dans le tiroir de la table de nuit de la chambre qu'a occupé Benjamin Walter. Tu feuillettes rapidement le livre. Et tu découvres un passage qui est souligné. Tu t'apprêtes à partir en emportant le livre, mais c'est là qu'une photo tombe du livre. C'est la photo d'une femme. Au dos de la photo, il y a quelque chose d'écrit. Tu reconnais l'écriture de Benjamin Walter, une écriture étonnamment scolaire. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte du silence. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que la douche ne coule plus et que la porte de la salle de bain s'est ouverte.
Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la douche ne coule plus et que la porte de la salle de bain s'est ouverte.
Et après, il dit quoi ?
C'est tout, ça s'arrête là.
Bonjour, le suspense à deux balles.
Oh, Simon.
Non, mais Simon a raison, c'est vraiment un suspense à deux balles.
C'est comme cette histoire de photo.
Je suis sûr que ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Non, mais c'est comme cette histoire de photo. C'est un truc qu'il a repiqué dans... C'est quoi ce film-là où il y a la photo qui tombe du bouquin ?
Je sais pas.
Non, Clovis.
Non, je vois pas.
Bon, peu importe. Mais donc... Ça, c'est un truc qu'il a inventé. Je suis sûr qu'elle n'existe pas, cette photo.
Alors, justement, si, la mise en pièce jointe.
Non, mais bon, après, il peut prendre n'importe quelle photo. S'il faut, il n'est même pas Helsinki.
Et il a mis aussi une photo du livre qu'il a trouvé, avec la citation soulignée. Fleur, tu peux lire, s'il te plaît.
Sich in einer Stadt nicht zurecht finden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.
Ça veut dire quoi ?
Bah, j'en sais rien.
Bon. Alors, il n'y a plus qu'à passer par Google Traduction. Alors, ça donne... Pas trouver leur chemin dans une ville n'est pas peu dire. Dans une ville, mais se perdre. Comment verirt dans une forêt besoin de formation ?
Eh ben, bravo Google.
Et au dos de la photo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?
Ça, il dit pas.
Il fait chier, putain. Comment on peut avancer, nous, si on n'a pas toutes les infos ?
C'est vrai que là, c'est chiant, on peut pas avancer avec ça.
C'est vrai, pourquoi il nous dit pas ce qu'il y a d'écrit derrière la photo ?
J'en sais rien, moi, m'agressez pas, je fais que lire les mails qu'il nous envoie.
Aéroport d'Helsinki, 1er mars 2013.
Journal de bord, 11e jour. Dans le livre « Enfance berlinoise », j'ai découvert un ticket de théâtre. Je suis allé faire un tour du côté du théâtre en question... J'ai interrogé plusieurs personnes et une des actrices de la troupe m'a dit avoir rencontré Benjamin fin juillet 2011 et l'avoir hébergé quelques jours. Elle m'a donné une adresse à Copenhague où il serait parti ensuite. Je pars donc pour le Danemark. Je me suis aperçu que je ne vous ai pas donné la traduction de l'extrait d'Enfance berlinoise. Ne pas trouver son chemin dans une ville, cela ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville comme on s'égare en forêt, cela s'apprend. J'ai l'impression que Benjamin me dit quelque chose avec cette phrase. Qu'il m'indique la voie à suivre. J'ai l'impression qu'il me dit qu'il me faut parcourir les villes comme lui, en apprenant à me perdre, qu'il ne faut pas que j'enquête de manière rationnelle, mais en acceptant de m'égarer, en flânant, qu'il me faut être un détective flâneur. Voilà. D'ailleurs, c'est en me perdant que j'ai retrouvé la piste de ce livre qui parle justement d'apprendre à se perdre. Comment ne pas y voir un signe ? PS, j'ai également oublié de vous dire ce qu'il y avait décrit derrière la photo. Quand on sent un regard sur soi... Même dans son dos, on cherche à y répondre.
Un appartement, 7 mars 2013.
Écoutez,
J'ai une super idée. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à un moment donné, je pourrais arrêter la représentation. Je dis que j'en ai marre de jouer dans cette pièce et je me casse.
Comment ça?
Eh ben, ce serait comme une transposition dans l'espace de la représentation du thème de la pièce.
Je vois pas le rapport.
Ben si, comme Benjamin Walter. Il s'est barré lui aussi, il a dit « Salut, moi je me casse » et il a disparu.
C'est pas pareil.
C'est exactement pareil. Le mec, il en avait marre et il s'est barré.
Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, Simon.
Bah non, je trouve pas.
Tu veux dire que pour toi, c'est une forme de lâcheté?
Ah non, moi je vois plutôt ça comme une forme de courage.
Alors là, on n'est pas d'accord. Se barrer dès que quelque chose va mal, excuse-moi, mais moi je trouve ça particulièrement lâche, ouais. Désolé.
Non, moi je trouve ça courageux de regarder les choses en face et de prendre des décisions radicales. De pas faire semblant, de ne pas être hypocrite.
C'est lâche, je suis désolée. Ce qui est courageux, c'est d'être fidèle à ses idées et d'assumer ses choix. Se casser à la première difficulté, c'est facile.
Dans le cas de Benjamin, je crois pas qu'on puisse dire ça. On peut supposer que ce n'est pas une décision prise à la légère. Renoncer à écrire puis disparaître, c'est forcément un acte lourd de conséquences.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut faire que des suppositions. On n'a aucune idée de pourquoi il est parti. S'il faut, il est juste parti pour aller retrouver une femme.
Oh, la femme de la photo?
Oui, par exemple.
Non, moi je pense qu'il y a forcément un lien avec son renoncement. S'il faut, il a mis un terme à une première partie de sa vie et il a décidé de commencer une autre vie.
S'il faut, il est chasseur-cueilleur en Laponie.
Par exemple.
Non, moi je verrais plutôt une quête personnelle, vous voyez. Une quête sur ses origines. S'il faut, il est parti à la recherche de son père.
Ou de son frère.
Ou de son frère.
Ou de sa belle-mère.
Elisa.
Non mais c'est juste que les histoires de famille, ça me gonfle.
Bon, alors, il dit quoi dans son dernier mail?
Il dit qu'à Copenhague, il a rencontré des gens qui ont hébergé Benjamin quelques jours durant l'été 2011. En partant, Benjamin a laissé chez eux un livre et un cahier qui contient une partie de son journal.
Et il leur a dit où il allait ?
Oui. Il voulait se rendre à Svendborg. C'est à 170 km de Copenhague. Il voulait voir la maison de Brecht.
C'est la maison dans laquelle Brecht a vécu de 1933 à 1939 pendant son exil, quand il a fui l'Allemagne nazie. Walter Benjamin y a également séjourné pendant plusieurs étés, entre 1934 et 1938.
Oui, on a fait quelques recherches avec Lovis. Ah, et on a trouvé ce passage dans les écrits biographiques de Walter Benjamin, où il cite Brecht qui parle de leur partie d'échec. Nous devrions mettre au point un nouveau jeu. Un jeu où les positions ne restent pas toujours semblables. Où la fonction des pièces change quand elles ont séjourné un moment au même endroit. Elles deviennent alors ou bien plus efficaces ou bien plus faibles. Or, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Cela reste trop longtemps semblable.
Brecht's Huse, Svendborg, Danemark, 5 mars 2013.
Journal de bord, 15e jour. Je me trouve maintenant dans l'ancienne maison de Brecht, à Svendborg. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par Maria Johansson, responsable de la maison qui sert aujourd'hui de lieu de résidence pour des écrivains. Je lui ai montré une photo de Benjamin. Elle se souvenait très bien de lui. Il était venu en août 2011. Il voulait voir la maison. Elle l'avait invité à la visiter. Elle m'y a invité également. Elle lui avait montré la terrasse sur laquelle Brecht et Walter Benjamin avaient l'habitude de jouer aux échecs et d'avoir des discussions mouvementées, notamment au sujet de Kafka. Elle lui avait montré le bureau de Brecht avec la poutre sur laquelle il avait écrit « La vérité est concrète ». La phrase a été recouverte. Elle n'est plus là. Je regarde longuement cette poutre blanche et sachant qu'elle porte quelque part en elle la trace de cette inscription, elle n'est déjà plus la même. Le fantôme de l'inscription est là, entend le présent de cette maison, le passé inclus dans le présent, toute pensée est un fantôme. À la nuit tombée, Benjamin lui avait demandé s'il pouvait passer la nuit dans une des chambres. Il y avait une chambre de libre, elle avait accepté. Nous avons discuté longtemps avec Maria et la nuit est tombée. Et je me suis retrouvé exactement dans la même situation que Benjamin, à demander si je peux passer la nuit ici. Et me voilà dans cette chambre.
Et te voilà dans cette chambre. Des couches d'histoire se superposent. Et de savoir que tu dors dans une chambre dans laquelle avant toi a dormi Benjamin, et dans laquelle avant vous ont dormi Walter Benjamin et Bertolt Brecht, tu sais que tu ne parviendras pas à fermer l'œil de la nuit.
Il y a trop de fantômes dans cette chambre.
Tu as récupéré le livre abandonné par Benjamin à Copenhague. Il s'agit d'un recueil de textes de Roberto Bolaño. Et dans un passage consacré à Baudelaire, tu as découvert que Benjamin a souligné une phrase.
Je vais voyager. Je vais me perdre dans des territoires inconnus. Voir ce que je trouve. Voir ce qui se passe. Mais auparavant, je vais renoncer à tout.
Tu lis et relis cette phrase et tu ne peux t'empêcher de penser qu'elle sonne comme un programme. Puis tu repenses aux deux autres phrases que Benjamin Walter a abandonnées derrière lui.
Perdre le visage, franchir ou percer le mur. Ne pas trouver son chemin dans une ville, cela ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville comme on s'égare en forêt, cela s'apprend.
Elle semble se répondre, composer un seul et même texte. Benjamin a entrepris un voyage.
Je vais voyager.
Avant d'entreprendre ce voyage, il a renoncé à écrire et renoncé à ses amis.
Mais auparavant, je vais renoncer à tout.
Il a entrepris ce voyage pour faire une expérience, l'expérience de se perdre.
Je vais me perdre, perdre le visage.
Se perdre dans des pays, dans des villes étrangères.
Je vais me perdre dans des territoires inconnus.
Une expérience qui s'apprend.
S'égarer dans une ville comme on s'égare en forêt, cela s'apprend.
Mais il reste des questions.
Comment apprend-on à se perdre ?
Et surtout,
pourquoi se perdre ?
Et là ?
Dans quel but ?
Tu remarques que le livre s'ouvre de lui-même à une autre page, une page qui a dû être lue plusieurs fois pour qu'il s'ouvre de lui-même à cet endroit, et tu tombes sur cette phrase.
Je suppose que je veux dire que Kafka comprenait que les voyages, le sexe et les livres sont des chemins sur lesquels il faut se lancer et se perdre pour se trouver de nouveau ou pour trouver quelque chose, peut-être un modèle, avec de la chance, du nouveau, ce qui a toujours été là.
Une phrase qui sonne étrangement comme une réponse à ta question. Pourquoi se perdre ?
Pour se trouver de nouveau ou pour trouver quelque chose, du nouveau, ce qui a toujours été là.
À cet instant, tu te dis que Benjamin a établi un programme à travers des livres, qu'il suit à la lettre un plan de livre en livre. Et à ce moment-là, un appel résonne dans la nuit. Un appel sur Skype. Tu ne connais pas le pseudo qui s'affiche ? Tu te demandes qui peut bien t'appeler à cette heure ? Tu acceptes l'appel.
Coucou, c'est moi, votre producteur.
Bonsoir.
C'est formidable ce truc. J'étais dans mon bureau, tout à coup j'ai pensé à vous, et paf, je clique, et vous êtes là en face de moi. C'est formidable. Alors, vous en êtes où ? Ça avance ?
Oui, ça avance, enfin, j'avance un peu. J'ai remonté la piste de Benjamin et... Enfin, je me rends compte à quel point c'est un projet étrange et envoûtant.
Oui, très, très bien, vous me raconterez tout ça plus tard. Alors moi, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais devoir réduire la voilure.
Hein ?
Vous comprenez ?
Ah non, non, je suis pas bien sûr de vous suivre là.
Bon, un théâtre, c'est comme un bateau, vous voyez ? Et la voile, c'est le public. Et le vent, c'est... Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. La voile, c'est les artistes. Hein, et le vent, c'est le public. Non, je reprends. Le vent, c'est les artistes. Le gouvernail, c'est moi. Et la voile, c'est... Oh, bah mince, je le tenais tout à l'heure.
Ça... Non, mais c'est pas très grave.
Hein, non, mais
c'est...
si, attendez, ça va me revenir. Alors, le gouvernail, c'est moi, ça c'est sûr. La voile, c'est... Ah, mais non, ça me revient pas, je suis désolé.
Non, mais c'est vraiment
non,
pas très grave.
Non, mais bon, vous m'avez compris, vous voyez un peu métaphore, quoi.
Oui, je vois, oui, mais... Mais vous aviez déjà accepté de produire ce projet, les acteurs ont commencé à répéter.
Oui, mais là, il n'y a plus d'argent. Vous voyez ? Par contre, je peux vous proposer une superbe salle de répétition. Et le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffage.
Je sais pas. Il faut que j'en parle aux acteurs.
Ah oui, et puis j'ai trouvé une citation qui m'a fait penser à vous et je me suis dit qu'elle pourrait vous être utile pour votre projet. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Moi, j'avais pourtant ce matin quand je le... Elle n'est pas dans cette... Voilà. Ah, voilà, ça y est. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement... dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. Voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde. Ah, c'est beau, n'est-ce pas ? Allez, bon vent, matelot !
Non, attendez !
Le directeur a raccroché. Tu essaies immédiatement de rappeler, mais il ne répond pas. Tu veux savoir d'où vient cette citation. Tu finis par chercher sur Google qui en est l'auteur.
Baudelaire.
La coïncidence te fait sourire, car c'est de Baudelaire que parle Bolaño dans le passage de son livre que Benjamin a souligné et dans lequel il parle également de Kafka, Kafka sur lequel tu découvres que...
Walter Benjamin a écrit une importante étude durant l'été 1934 pendant son séjour à Svendborg dans la maison de Brecht.
Walter Benjamin qui a également consacré une grande partie de sa vie à l'étude de...
Baudelaire.
Tu cherches un sens à tout cela. Il n'y en a apparemment pas. Juste un réseau de connexions, un champ de coïncidences.
Salle de répétition, quelque part en région parisienne, 10 mars 2013.
Waouh.
Bon, eh ben...
Donc c'est là qu'on va répéter ?
C'est ça.
Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il fasse plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Ouais, c'est sûr.
C'est quoi son dernier mail ?
Ça date du 7 mars et il a écrit « Cherchez Warburg ».
C'est tout ?
Oui, c'est tout. Cherchez Warburg.
Ça veut dire quoi ?
Non, mais si en plus maintenant on comprend rien de ce qu'il dit.
Alors, j'ai fait des recherches.
Hein. Ah, merci.
Abbé Warburg, né à Hambourg en 1866, est un historien de l'art. Son travail a servi à jeter les bases de l'iconologie.
Bibliothèque de la Warburg House, Hambourg, 7 mars 2013. Entretien avec Thomas Schumann, professeur d'histoire de l'art.
Merci de vous être libéré.
Oh, bête, bête.
J'étais à Svendborg quand j'ai reçu votre mail. J'ai pris le premier train pour Hambourg. Qui vous a dit que j'étais à la recherche de Benjamin ?
J'ai rencontré des amis de Benjamin un peu par hasard, à vrai dire. J'ignorais tout de sa disparition. Ils m'ont dit de vous contacter.
Très bien. Et est-ce que je peux enregistrer notre entretien ?
Bien, naturellement, naturellement. C'est bon, là, pour
attendez.
Vous,
je ouais. peux... Oui, ouais, c'est bon, ça enregistre.
Ça enregistre. Ouais. Alors, j'ai rencontré Benjamin Walter pour...
Non, Walter. Benjamin Walter.
Walter, pour la première fois en, c'était quoi, 2007, à Berlin, lors d'un séminaire consacré à Abbé Warburg. Et nous avons sympathisé et par la suite, nous avons gardé le contact. En août 2011, je crois, il m'a laissé un message me disant qu'il était de passage à Hambourg et qu'il voulait me voir. Nous nous sommes vus 2 ou 3 fois et nous avons abordé plusieurs sujets, mais il m'a surtout beaucoup interrogé sur... La classe Mnemosyne.
Abbé Warburg a fondé à Hambourg une bibliothèque interdisciplinaire qui deviendra mythique par sa richesse et son organisation originale. La loi qui le guidait était celle du bon voisin, selon laquelle la solution de son problème était contenue non dans le livre qu'il cherchait, mais dans celui qui était à côté. De cette manière, il fit de la bibliothèque une sorte d'image labyrinthique de lui-même, dont le pouvoir de fascination était énorme. À partir de 1924 et jusqu'à sa mort, il s'attache au projet Mnemosyne.
Au quoi ?
Un grand atlas d'images destiné à rendre visibles les survivances de l'Antiquité dans la culture occidentale. L'atlas Mnemosyne est un ensemble de photographies d'œuvres d'art accrochées sur des grands panneaux noirs afin de pouvoir les faire dialoguer les unes avec les autres, les faire entrer en résonance.
Mais l'atlas Mnemosyne n'est pas qu'un album d'images ou qu'un simple outil comparatif. Il s'agit d'une forme nouvelle de collection et d'exposition des images, d'une méthode expérimentale de pensée par le montage. Ce que cherchait à faire Benjamin, c'était de rapprocher le principe du montage de citations dans le livre des passages du montage d'images de Warburg dans l'Atlas Mnemosyne.
C'est-à-dire ?
Le livre des passages est un projet inachevé auquel a travaillé Walter Benjamin pendant la dernière partie de sa vie. C'était un projet qui devait s'articuler autour de la figure de Baudelaire pour élaborer une tentative d'interprétation globale du XIXe siècle. Il avait ceci de particulier qu'il devait être composé en majeure partie de citations et que l'encadrement théorique et l'interprétation devaient être réduits au minimum. Pour reprendre les mots de Walter Benjamin, la méthode de travail, le montage littéraire. Je n'ai rien à dire, seulement à montrer.
Warburg meurt d'une crise cardiaque en 1929. Il laisse derrière lui un héritage important, ainsi qu'une vaste bibliothèque qu'il constitua tout au long de sa vie, comprenant 80 000 ouvrages, et située à l'Institut Warburg à Londres, à l'insuite du déménagement opéré en catastrophe sous le nazisme.
T'as trouvé ça sur Wikipédia, j'imagine ?
Bah oui, j'ai tapé Warburg sur Google.
En même temps, Wikipédia, ils ont quand même réussi à inventer une guerre. Hein ? S'il faut, Abbé Warburg, il a jamais existé. D'ailleurs, rien que le nom du gars, Abbé Warburg. C'est pas possible, c'est forcément un faux nom.
Qu'il existait ou pas, c'est surtout que ça nous avance pas à grand chose.
C'est vrai, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Et puis surtout, c'est quoi le lien avec Benjamin ?
Tu es à présent seul dans la bibliothèque de la Warburg House et tu réécoutes des extraits de l'entretien que tu viens d'achever.
Comme l'explique Théodore Adorno, dans le livre des passages, l'intention de Walter Benjamin était de renoncer à toute interprétation
et de ne faire surgir les significations que grâce au choc provoqué par le montage des documents.
Tu repenses à cette nuit à Svendborg où tu as agencé les citations laissées par Benjamin derrière lui, où par leur montage tu as cru déceler le sens de sa démarche.
Benjamin a volontairement laissé derrière lui des traces, des fragments qui peuvent expliquer son geste. Il suffit pour cela de les recueillir et de faire surgir les significations par leur montage.
Il te faut continuer à retracer le parcours de Benjamin et à retrouver les citations qu'il a volontairement semées. Et peut-être...
Peut-être me mèneront-elles jusqu'à lui. Peut-être est-ce un jeu pour Benjamin. Peut-être disparaître et attendre que quelqu'un le retrouve à partir des fragments qu'il a abandonnés. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vers où aller?
En rangeant tes affaires dans ton sac, tu tombes sur le livre « Enfance berlinoise ». Berlin n'est pas loin. Tout pourrait laisser penser que, si le projet de Benjamin était de poursuivre son voyage, il est parti dans cette ville. Tu hésites un instant. Le lendemain, tu prends le train de 9h12 pour Berlin.
Chapitre 3. Efface tes traces.
Berlin, 9 mars 2013.
Je m'aventure dans les rues de Berlin sans savoir où aller, sans aucune piste véritable.
Tu n'as jamais eu aussi peu d'éléments concrets concernant la localisation de Benjamin.
Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi proche de lui.
Aussi proche de sa démarche, de sa pensée. Tu ne t'es jamais senti à ce point sur ses traces.
Je me lance dans l'inconnu. En m'abandonnant au hasard des rues, en m'aventurant en détective flâneur, à la recherche de la moindre trace le concernant.
Où a-t-il bien pu se rendre? Que serait-il venu faire ici?
À la recherche du moindre indice, du moindre signe.
Tu recherches des traces du passé dans le présent, des survivances. Tu recherches des traces de Benjamin dans Berlin.
Et chaque rue, chaque habitation, chaque objet m'apparaît alors comme chargé d'images du passé, auréolé de ses propres fantômes, de ses propres histoires.
Et tu te dis qu'il n'y a en réalité pas de présent.
Il n'y a que des traces du passé.
Et au hasard d'une rue, tu tombes sur le Berliner Ensemble. Par curiosité, tu regardes le programme.
18h30, Bruno Ganz lit 2666. 21h, le procès.
Dans le théâtre de Brecht, un acteur de Wim Wenders lit des extraits d'un livre de Roberto Bolaño le même soir qu'une mise en scène du roman de Franz Kafka. Cela fait beaucoup de signes, beaucoup de coïncidences. Tu veux tellement découvrir des signes, retrouver le début d'une trace de Benjamin, tu veux tellement voir son fantôme surgir dans Berlin que tout devient signe pour toi. Et lorsque tu reprends ta marche, les inscriptions que tu croises sur les murs de la ville sonnent comme autant de messages qui te seraient adressés. La ville devient alors pour toi comme un livre dans lequel tu progresses, que tu parcours tout le jour en ramasseur de phrases, en collectionneur de citations. Et c'est alors, parmi les centaines d'inscriptions que tu découvres, que tu tombes sur celle-ci. Verwisch die Spuren.
Efface tes traces.
Une phrase écrite sur un mur, d'une écriture étonnamment scolaire. Tu désires tellement que ce soit l'écriture de Benjamin que tu te méfies.
Oui, je suis tellement à l'affût de la moindre phrase laissée par Benjamin derrière lui que je préfère me méfier.
Alors tu passes ton chemin, tu reprends ta marche.
Mais quelques mètres plus loin, je retombe sur ce même slogan.
Verwisch die Spuren, efface tes traces.
Je décide de faire une recherche et je découvre que cette phrase est extraite du manuel pour habitants des villes de Brecht.
Quitte tes camarades au sortir de la gare. Marche dans la ville au matin, ta veste bien fermée. Cherche-toi un gîte. Et si ton camarade frappe, n'ouvre pas la porte. Ah, n'ouvre pas la porte. Au contraire, efface tes traces.
Ça ne peut pas être un hasard.
En poursuivant tes recherches, tu découvres que...
Les premières inscriptions de cette phrase sur les murs de Berlin sont apparues à l'automne 2011.
Cela correspond à la période où Benjamin aurait pu s'y trouver.
Elles se sont ensuite multipliées dans la ville.
Alors que tu es sur les traces de Benjamin, celles que tu crois avoir découvertes ne manquent pas d'ironie.
Efface tes traces.
Quel sens donner à cette phrase? Le soir tombe sur Berlin. Qu'es-tu venu faire ici? Tu as marché toute la journée. Qu'es-tu venu chercher?
Épuisé par cette journée de marche, j'entre dans un café. Je commande une bière et je sors de mon sac le journal de Benjamin abandonné à Copenhague. Je le parcours en essayant d'y trouver des explications et certains passages sonnent comme autant de signes prémonitoires.
Extrait du journal de Benjamin Walter, 24 avril 2010. Vous ne m'aurez pas. Vous ne me réduirez pas à un concept, à une idée, à une phrase dans un programme, à une citation dans un journal, à une image. Vous ne me résoudrez pas. Je m'épaissirai. Vous plongerez vos mains et vous n'attraperez rien. Vous n'en saurez pas plus. Vous plongerez votre tête et vous y verrez moins. Vous y verrez trouble. Je vous échapperai.
J'ai soudain l'impression que Benjamin est sorti pour fumer et qu'il va revenir s'asseoir à l'instant et commander une bière.
Tu ne peux t'empêcher de le voir s'asseoir à cette table et commander une bière. Et Benjamin boit sa bière à côté de toi et il se tourne vers toi et te sourit. Et Benjamin murmure
« Efface tes traces ».
Et cette phrase te glace le sang. Tu sors du café précipitamment. Qu'es-tu venu faire ici? Qu'es-tu venu chercher?
Je suis venu chercher des traces du passé dans le présent, des survivances. Je suis venu rechercher des traces de Benjamin dans Berlin.
Efface tes traces.
La seule trace laissée par Benjamin est une trace qui dit « Efface tes traces ».
Tu crois que c'est une trace laissée par Benjamin, mais rien ne le prouve.
Mais je suis sûr que c'est une trace laissée par Benjamin. Ça ne peut pas être un hasard.
Qu'es-tu venu faire ici?
Je ne sais pas, je...
Tu n'aurais jamais dû venir ici.
Je n'aurais pas dû venir ici comme ça, sans aucune piste, sans aucun indice.
Efface tes traces. Tu ne sais pas où aller.
Je n'aurais jamais dû venir ici.
Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus où tu es. Et soudain, tu aperçois Bruno Ganz dans les ailes du désir.
J'aperçois nettement au loin l'ange Damiel dans la nuit, dans la brume.
Tu veux en avoir le cœur net. Tu veux le prendre en photo avec ton téléphone. Tu veux une preuve que ce n'est pas une hallucination. Mais lorsque tu veux prendre la photo, mémoire insuffisante.
Ah non, mais putain, non, c'est pas vrai!
Il te faut effacer des photos pour enregistrer de nouvelles photos. Et lorsque tu regardes à nouveau, l'ange a disparu. Il te faut faire de la place dans ta mémoire.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez l'air perdu. Vous cherchez quelque chose?
Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire que je cherche quelque chose, oui.
Donc vous savez ce que vous voulez trouver?
Oui, si vous voulez.
Mais si vous savez à l'avance ce que vous voulez trouver, vous ne posez pas un regard neutre. Vous interprétez les signes en fonction du résultat que vous voulez trouver. Vous orientez votre regard, vous faussez toute l'expérience. Or, tout est question d'expérience, vous voyez?
Vous voulez dire qu'il faut que j'ignore ce que je cherche?
Moi, je ne sais pas ce que je vais trouver, je m'attends à rien. Je récolte ce qui tombe sous la main, je ramasse ce qui traîne, les restes, les débris, les déchets, tout ce qui a été rejeté par la grande cité, tout ce qui un jour fut marchandise, mais... qui n'apparaît plus digne d'être marchandise. Je les sauve, vous voyez. Je leur rends justice.
Oui, je vois. Je crois que je vois.
Les guenilles, leur rebut, leur permettre d'obtenir justice de la seule façon possible, en les utilisant.
Tu finis par activer tes données de localisation sur ton téléphone et par retrouver ton chemin. Il est tard. Tu te précipites dans le premier hôtel venu et tu t'effondres, épuisé dans ta chambre étrangère et froide. Dans la brume du sommeil qui commence à t'envelopper, tu te dis que ce vieil homme ressemblait à Walter Benjamin à la fin de sa vie. Tu te dis que c'est son fantôme que tu viens de rencontrer. Et tu t'endors. Des jours et des nuits à Berlin. Des déambulations, des errances. Une enquête qui piétine, des fatigues et des découragements. Aucune autre trace de Benjamin, des doutes et des impatiences. Et puis, un matin...
Hôtel Europa, Berlin, 19 mars 2013.
Un matin, en faisant des recherches, tu tombes sur l'extrait d'un documentaire intitulé « Berlin's Walls » sur l'histoire du street art à Berlin.
Les inscriptions « Efface tes traces » ont commencé à apparaître à Berlin à la fin de l'été 2011. C'est une démarche relativement minimaliste dans le domaine du street art et qui repose, comme on peut le constater, sur le principe du slogan. Mais il convient de remarquer qu'elle se démarque de la plupart des démarches dont on pourrait la rapprocher par le fait qu'elle n'utilise pas la technique du pochoir, comme c'est fréquemment le cas dans ce type de projet. Il s'agit ici plus simplement d'une écriture au marqueur, directement sur le mur, ce qui fait de chaque inscription un geste et un objet unique et non la reproduction d'un même modèle. Les premières versions ne portaient pas de signature, mais à partir d'un certain moment, les suivantes ont arboré les initiales ODK, dont on ne connaît pas la signification. D'autres slogans de ODK ont été recensés par la suite dans plusieurs capitales européennes, notamment à Athènes, Sarajevo, Belgrade et Prague.
C'est à ce moment-là que ton navigateur te propose une nouvelle mise à jour et qu'un message apparaît sur ton écran.
Le nouveau bouton effacé.
Vous souhaitez effacer vos traces? Activez le bouton effacer et le tour est joué.
À cet instant, tu ne peux ignorer ce message. Tu ne peux faire autrement que de l'interpréter comme une incitation à mettre à exécution cette phrase de Brecht.
Verwisch dich spuren.
Ce message de Benjamin.
Efface tes traces.
Tu hésites un instant. Tu actives le bouton effacer. Tu prends ton téléphone et désactives tes données de localisation. Puis tu sors de l'hôtel, te diriges vers la gare et prends le premier train pour Prague.
S'enfoncer un peu plus dans l'inconnu. Se perdre encore davantage. Effacer ses traces.
Dans le train Berlin-Prague, 19 mars 2013.
Mais pardon! Vous, être français?
Ouais.
Oui, je vois, vous avez dictionnaire.
Ah, oui, c'est parce que mon livre est en allemand et je le comprends pas très bien.
Et je peux demander quoi c'est le livre? Ça a intéressé moi.
Oui, bien sûr. C'est un livre qui contient plusieurs textes de Walter Benjamin, principalement enfance berlinoise, et également un recueil de textes sur son expérience de consommation du haschich.
Oui, parce que j'ai vu là, hein, Uber haschich.
Oui, c'est le titre du recueil, sur le haschich.
Oui.
Est-ce que toi vouloir...
Pardon ?
Si toi intéressé, je peux vendre toi.
Vous pouvez vendre moi ?
Oui.
Hein ?
Combien ?
Ah, d'accord. Ah oui, parce que vous avez du...
Oui,
Écoutez,
À cet instant, tu regardes ton livre et tu tombes sur cette phrase.
C'est une alternance incessante d'états de rêve et de veille, un va-et-vient continuel et pour finir épuisant entre des mondes de conscience entièrement différents.
Tu hésites un instant et puis...
Toi vouloir.
Alors, tu achètes la marchandise que te propose le jeune homme. Mais à peine te l'a-t-il donné qu'il sort du wagon.
Attendez, vous allez où là?
Le jeune homme semble avoir vu quelque chose.
La police des douanes.
La police des douanes contrôle chaque passager. Tu paniques. Tu as la marchandise à la main, donc tu paniques. La police des douanes est à quelques mètres de toi. Tu avales la marchandise.
Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu as avalé la marchandise.
Oh non.
Mais il ne se passe rien.
Bah non, ça fait rien du tout.
La police des douanes avance vers toi. Tu crois qu'il ne se passe rien. La police des douanes avance toujours vers toi.
Non, il se passe absolument rien.
La police des douanes n'en finit pas d'avancer vers toi.
Ça fait rien du tout.
Le paysage ralentit. L'obscurité grandit.
Franchir ou percer le mur.
Deux animaux s'approchent de toi.
Efface les traces.
Ils te demandent tes papiers. Ils te demandent tes papiers. Donne tes papiers. Ils te demandent tes papiers. Tes papiers, donne tes papiers. Ils te demandent tes papiers. Tes papiers, donne tes papiers. Tes papiers, ils te demandent tes papiers. Tes papiers, donne tes papiers. Ils te demandent tes papiers.
Pourquoi ça fait ça là?
Tes papiers.
C'est Benjamin Walter, traversé de Frédéric Sontag, première partie, version radiophonique inédite, enregistrée en direct et en public du Jardin du Musée Calvet, le vendredi 19 juillet 2019, au Festival d'Avignon, avec Christophe Montenez de la Comédie Française, Kelly Rivière, Christophe Brault et les élèves de l'ensemble 26 de l'Éracme, Juliette Evénard, Léa Douziège, Anna-Maria Haddad-Zavadinac, Thibaut Kuttler, Robin Redjadj, Samuel Dio et Tamara Lipsic. Musique originale, composée et interprétée par Arthur B. Gillette, équipe technique Pierrick Charles, Mathieu Tourin, Thomas Robine, Alain Piette, coordination technique Sandrine Bréchaud. Merci aux équipes de régie du Musée Calvet, Anne Bouchicot, Irène Sorel, Thierry Allaire, assistant à la réalisation Pablo Valero, et c'était une réalisation de Sophie Aude Picon. La seconde partie de cette pièce de Frédéric Sontag continue à s'enregistrer au Musée Calvet. L'intégralité de la pièce sera diffusée sur France Culture dans la soirée du théâtre du dimanche 8 septembre à 21h. Ainsi s'achève notre semaine de fiction en direct du Festival d'Avignon. Vous pouvez réécouter, podcaster sur franceculture.fr tous les programmes diffusés depuis lundi soir. Pour les auditeurs qui sont encore à Avignon, demain, venez à la soirée de clôture pour la pièce inédite de Jean-Luc Lagarce, Elles disent l'Odyssée. Il est l'heure de quitter Avignon dans une poignée de secondes. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de France Culture.